Bonjour à tous, bonjour à toutes, merci à ceux qui nous rejoignent maintenant sur le 98.5 FM, la radio du sud de Toulousain. Nous allons parler électricité, nous allons parler énergie. Et pour en parler, je suis avec monsieur Jérôme Rieux, le délégué régional sud-ouest de RTE. Monsieur Rieux, bonjour.
Bonjour.
Vous êtes délégué régional sud-ouest chez RTE, ça correspond à quoi ?
Alors RTE, c'est le réseau de transport d'électricité, hein. Ce sont les autoroutes de l'électricité, c'est-à-dire le réseau avec des niveaux de tension importants, 63 000 volts, 225 000 volts, 400 000 volts. Et on a sur le territoire toutes ces lignes qui nous servent à transporter l'électricité, ensuite redistribuer aux clients, notamment par le biais des distributeurs d'électricité. Et on connaît tous notamment Enedis qui joue ce rôle donc entre notre réseau et puis les clients finaux particuliers.
Première interrogation, vous transportez dans toute la France cette espèce de maillage en fait d'autoroute de l'électricité en France. Vous êtes les seuls à faire ça ?
Tout à fait, on est les seuls. Il n'y a qu'un seul réseau de transport d'électricité. Donc on est une entreprise de service public puisqu'on a un monopole sur cette activité. Et on est d'ailleurs contrôlé, régulé par la Commission de régulation de l'énergie pour réaliser cette activité.
Vous êtes quand même une société privée. L'État est majoritaire, j'imagine, dans votre capitale.
Alors, on est une société de droit privé, effectivement, avec la moitié de l'actionnariat, c'est EDF, et puis l'autre moitié, c'est la Caisse des dépôts, donc l'État, indirectement, qui est le deuxième actionnaire de RTE.
Ce qui veut donc dire que vous êtes en lien avec EDF, Enedis et les autres ex-branches EDF, j'allais dire.
Voilà, donc Enedis, on travaille avec Enedis puisqu'on exploite chacun un réseau avec beaucoup de liens entre les deux. EDF, c'est notre actionnaire, mais après on a des obligations d'indépendance hein, puisque EDF, c'est aussi un producteur que l'on doit considérer comme les autres producteurs d'électricité. Et donc la CRE, la Commission de régulation de l'énergie, vérifie que l'on respecte bien notamment ces règles d'indépendance vis-à-vis d'EDF.
Vous avez dit que EDF était un producteur, vous avez dit que vous faites du transport, ça veut donc dire qu'il y a plusieurs personnes qui vous fournissent de la matière à transporter.
Alors tout à fait, aujourd'hui on connaît EDF bien sûr, mais il y a d'autres producteurs d'électricité, on a des exploitants de barrages hydroélectriques qui existent, on a par exemple la CHEM dans les Pyrénées ou d'autres encore, on a des producteurs maintenant d'énergie renouvelable également qui sont raccordés souvent chez Enedis, mais parfois pour les plus gros parcs aussi chez nous. Et donc, tous ces producteurs viennent injecter leur électricité sur le réseau de transport de RTE.
RTE, vous avez le transport, comme vous dites, mais vous avez une deuxième mission derrière. Votre deuxième mission, c'est celle de réguler surtout la fourniture d'électricité, qu'elle soit égale sur tout le territoire et qu'il n'y ait pas de coupure ou de panne.
Alors tout à fait, en fait, on exploite une infrastructure, comme je l'ai dit, hein, donc une centaine de milliers de kilomètres de lignes, le réseau de transport d'électricité. Et puis, on a comme deuxième mission de gérer, de faire fonctionner en temps réel le système électrique dans son ensemble, donc de nous assurer qu'à chaque instant, chaque Français est alimenté en électricité. Et pour cela, il faut notamment qu'à chaque instant aussi, il y ait autant de production que de consommation d'électricité, puisque l'électricité se stocke pas ou se stocke très mal. Et donc, il faut qu'il y ait autant de production que de consommation à chaque instant. Et ça, on a cette mission de nous assurer de cela.
Vous avez des régulateurs, des machines qui gèrent ça en temps réel avec tous les aléas qu'on connaît. Par exemple, en ce moment, on a des très fortes chaleurs, on a des très fortes tensions peut-être sur le réseau. Ça se gère comment ça ?
Alors donc, les épisodes de chaleur, hein, comme on les connaît aujourd'hui, bien sûr, sont des épisodes auxquels on est très attentif. Sur la partie équilibre entre la production et la consommation, c'est sûr que quand il fait chaud comme ça, il y a plus de consommation parce que notamment on utilise plus la climatisation. Pour autant, cette augmentation de consommation, elle est quand même beaucoup moins importante que ce qu'on constate en hiver quand il fait très froid. Il y a quand même moins de consommation qu'en plein hiver. Donc aujourd'hui, on a la production suffisante pour faire face à ces augmentations. Donc ça, c'est tout à fait sécurisé. Et puis, on est attentif aussi au fait que quand il fait chaud comme ça, les infrastructures du réseau, les lignes, les postes, ils sont aussi sous surveillance parce que les matériels sont exposés à ces phénomènes de chaleur. Et on a dans notre plan d'investissement tout un volet qui est d'adapter nos infrastructures au changement climatique et notamment à ces épisodes de chaleur.
Ces matériels qui, pour certains, ont plus de 50 ans, voire plus peut-être, ne sont pas adaptés à ces températures-là.
Voilà, alors par exemple, les lignes électriques qui peuvent avoir jusqu'à 100 ans, notamment les premières, celles qui ont été développées dans les vallées pyrénéennes au moment du développement de l'énergie hydraulique, par exemple, ou autres. Ces lignes qui ont plus de 100 ans, parfois, ou en tout cas 80, voilà, elles ne sont pas conçues pour résister aux chaleurs. Et quand en fait il fait chaud, Une ligne, ça se dilate, hein, donc ça a tendance à baisser, puisque la longueur de câble est plus importante et on a quand même des distances de sécurité à respecter par rapport aux habitations, par rapport à la végétation. Donc quand il fait très chaud, sur ces lignes les plus anciennes, on est obligé de diminuer l'intensité qui circule, le courant qui circule, hein, pour qu'il y ait moins d'échauffement lié à cette circulation de courant. Et donc ça nous contraint beaucoup sur la façon d'exploiter le réseau. Donc aujourd'hui, on a tout un programme pour remplacer ces lignes les plus anciennes, les dimensionner, les faire résister à des chaleurs plus importantes. Donc par exemple, on les construit plus hautes aujourd'hui, les lignes, pour qu'elles puissent avoir une faculté de se dilater plus importante.
C'est pour ça que vous mettez en place plusieurs plans de rénovation sur notre zone, en particulier dans le sud-ouest là, avec des nouveaux équipements, des nouveaux postes sources, comme vous dites, c'est-à-dire qui permettent de réduire la tension de l'électricité pour des usages plus domestiques.
Aujourd'hui, effectivement, pour passer du réseau à très haute tension jusqu'aux particuliers, on a des postes qui nous permettent d'abaisser la tension avec des transformateurs pour arriver effectivement jusqu'au niveau de tension chez le particulier. Et effectivement, aujourd'hui, on a, nous, RTE, un plan d'investissement très important qui est lié à cette adaptation au changement climatique dont on parlait, à ce besoin de rénover les lignes et les postes qui sont souvent anciens, et puis qui est lié aussi à la transition énergétique qu'on connaît, aux nouvelles façons de produire, notamment avec les énergies renouvelables, et puis à la consommation d'électricité qui va devoir s'accroître si on veut arriver à la neutralité carbone, à moins consommer d'énergie fossile. Il va falloir qu'on ait des voitures électriques, qu'on s'équipe de pompes à chaleur. Hein, voilà, il y a beaucoup de démarches dans ce sens-là qui sont lancées par le gouvernement. Donc, toute cette électrification, elle fait qu'on va avoir plus d'électrons qui vont circuler sur notre réseau. Donc, on a des gros développements à faire aussi liés à cette transition énergétique.
La modernisation d'une part et la transition énergétique de l'autre côté.
Voilà, ce sont les deux grands piliers de notre plan d'investissement et on a chiffré qu'à l'horizon 2040, on avait 100 milliards d'euros sur le territoire français à investir pour effectivement à la fois renouveler un réseau qui est ancien et le faire perdurer de manière qualitative dans la durée en l'adaptant au changement climatique et puis prendre en compte les nouvelles façons de produire et de consommer de l'électricité, cette transition énergétique dont on parle beaucoup.
La modernisation des vallées pyrénéennes.
Sur les vallées pyrénéennes, on a un grand plan de modernisation. Ça fait partie des réseaux les plus anciens qu'on ait, notamment parce qu'il y avait ces barrages hydroélectriques et on a construit les lignes au départ pour évacuer l'électricité produite par ces barrages. Donc, on a un réseau qui est très ancien et dans certaines vallées, vous voyez encore, quand vous passez, par exemple, dans la vallée d'Or ou dans la vallée de la Neste, on voit ces lignes très anciennes. Et donc, on doit les réhabiliter, on doit les rénover. Et puis, dans ces vallées, comme ailleurs, on a aussi... Alors, on doit sécuriser la production hydroélectrique, puis on a aussi des énergies renouvelables qui arrivent, des volontés d'installer des panneaux solaires sur des toitures, etc. Et donc, on doit aussi renforcer le réseau pour permettre d'évacuer ces nouvelles sources d'électricité. On mène deux fronts, on va dire, ces deux ambitions simultanément.
Sachant très bien que si je mets des panneaux photovoltaïques sur mon hangar ou sur ma maison, ça passe d'abord par un prestataire de contrat électrique qui vous l'amène sur votre réseau. En revanche, si je bâtis une ferme photovoltaïque avec 600 panneaux, là ça passe directement chez vous.
Pour les plus petites installations, on va dire que ça passe déjà chez Enedis. C'est Enedis qui va récupérer dans un premier temps l'électricité produite. Pour les plus grosses installations, ça arrive directement chez nous. Mais même quand on est sur des petites installations qui arrivent chez Enedis, aujourd'hui, ce qu'on constate, c'est qu'il y a une telle dynamique dans les installations photovoltaïques chez les particuliers, sur des parkings, sous forme d'ombrières, sur les toitures. On est vraiment sur les petits ruisseaux font les grandes rivières. C'est que cette électricité, à un moment donné, quand elle ne peut pas être consommée directement sur place, et c'est souvent le cas parce que les endroits où elles sont produites, on n'a pas forcément besoin de l'électricité au moment où on la produit, cette électricité, elle remonte jusqu'à notre réseau et on doit ensuite transporter des grosses quantités d'électricité photovoltaïque vers des zones de consommation. Aujourd'hui, on produit beaucoup dans le sud-ouest d'électricité photovoltaïque, en Occitanie, en Nouvelle-Aquitaine. Toute cette électricité, on doit la transporter vers des grands centres de consommation qui sont souvent plutôt au nord, en région parisienne, qui peuvent être d'ailleurs dans d'autres pays européens aussi. Et donc, on a besoin de ces grosses artères, de ces autoroutes pour transporter toute cette électricité.
D'une part, l'électricité est consommée localement sur le territoire national, mais aussi vous faites beaucoup d'exportations vers les pays européens, en particulier vers l'Allemagne et vers le nord de l'Europe.
Tout à fait. Aujourd'hui, la France, elle produit plutôt plus d'électricité que ce qu'on a besoin. Voilà, on est plutôt en avance de ce volet-là. On a le nucléaire, on a les énergies renouvelables qui se développent. Ça veut dire qu'on a de quoi électrifier nos usages. Il n'y a pas de problème de ce point de vue-là. On sait avoir plus de voitures électriques, on sait avoir plus de pompes à chaleur. C'est le moment, l'électricité, elle est là, elle est abondante. Et le surplus, ce dont on n'a pas besoin, on va effectivement l'exporter vers nos voisins européens via les interconnexions. Et on a, en 2025 notamment, battu le record d'exportation d'électricité, le plus haut chiffre. Donc voilà, on a cette électricité abondante qui est, par ailleurs, et je le rappelle, en France, de l'électricité quasiment intégralement décarbonée, c'est-à-dire qu'elle n'est produite que par des moyens qui ne produisent pas de CO2, qui ne nuisent pas au climat, du nucléaire, des énergies renouvelables, de l'hydraulique, toutes ces sources d'électricité.
Vous parlez du nucléaire, on va en parler un tout petit peu maintenant. Avec ces fortes chaleurs, je reviens un petit peu dessus, c'est-à-dire qu'on est obligé de diminuer un petit peu la production du nucléaire pour les raisons de chaleur justement et de refroidissement des moteurs et des cœurs. Ça a une incidence, mais c'est compensé peut-être par le photovoltaïque.
Oui, alors c'est tout l'intérêt d'avoir effectivement un mix énergétique varié. Ça permet d'utiliser les meilleures sources d'énergie en fonction des moments. Donc il y a eu effectivement, alors c'est EDF qui gère bien sûr le parc nucléaire. Il y a eu un certain nombre de diminutions, comme vous le mentionnez, liées aux fortes chaleurs. Pour autant, d'une part, beaucoup de nucléaire a continué à fonctionner. Et puis, on a aussi ces autres façons de produire, donc le photovoltaïque, les barrages hydroélectriques et encore d'autres qui permettent de dire qu'aujourd'hui, même dans ces périodes de fortes chaleurs, même avec de la consommation supplémentaire, même avec certains moyens de production qui ne sont pas disponibles, il y a suffisamment d'électricité pour alimenter le territoire français sans difficulté.
Vous parliez de modernisation du réseau, ça passe aussi par la recherche et développement, c'est-à-dire des matériaux modernes, nouveaux, qui résistent mieux aux chaleurs, qui résistent mieux aux chocs thermiques. Et vous avez fait le choix en particulier pour des pylônes innovants avec une société qui se situe dans le Tarn.
Nous, on a ce grand plan d'investissement dont je parlais, là, les 100 milliards d'euros à investir d'ici 2040. Et on souhaite vraiment que ces investissements ils servent au maximum à des entreprises, à l'industrie française, à des entreprises françaises et locales. Donc, on cherche vraiment ça. Par exemple, effectivement, on a récemment passé un marché avec une entreprise du Tarn pour la fourniture de pylônes. Et puis, toujours dans la région, on a également un nouveau pylône qui a été imaginé avec une nouvelle silhouette, l'utilisation aussi de matériaux un peu différents, par une entreprise alors qui est plutôt dans le Cantal, mais qui produit également et qui a des sites de production également en Occitanie, qui va concevoir et produire ce nouveau pylône. Voilà, donc c'est des exemples concrets de cette volonté de faire appel au maximum à des fournisseurs de proximité, à des fournisseurs français pour nos pylônes, pour nos câbles, pour tous nos matériels dans nos postes électriques également.
On parle des matériels qui changent, qu'il faut moderniser, des matériels qui doivent s'adapter aux nouvelles situations. J'imagine que pour les personnels, c'est la même chose. Les métiers changent, ils doivent s'adapter à de nouvelles contraintes peut-être et de nouveaux métiers surtout.
On a effectivement ce fort développement, tous ces investissements réalisés. Donc, on est à peu près 10 000 chez RTE. On est en croissance régulière du fait de ce développement du réseau. On fait appel aussi à beaucoup de prestataires qui travaillent pour nous. Il y a également Enedis qui est dans la même démarche, qui développe aussi son réseau. Donc, on va dire les métiers des réseaux électriques sont des métiers en devenir, en développement, avec la contribution justement à la transition énergétique, donc avec beaucoup de sens aussi associés. Donc on travaille aussi, par exemple, avec des établissements locaux, régionaux, en signant des conventions pour des formations, des BTS par exemple, ou d'autres types de formations qui permettent pour les jeunes de mieux découvrir ces nouveaux métiers, mieux s'approprier leur contenu et puis faire ce choix d'avenir.
Il y a toujours des métiers très physiques, il faut monter des pylônes, il faut manipuler des gros engins. Mmh. Vous avez aussi des métiers qui sont plus peut-être alors intellectuels, entre guillemets, c'est-à-dire surveiller des réseaux, surveiller des ordinateurs peut-être. Est-ce qu'il y a une volonté ou au moins une tendance à la féminisation chez vous?
Oui, alors tout à fait. On est vraiment engagé dans une démarche de féminiser nos métiers qui sont des métiers techniques, donc historiquement peu féminisés. Donc on travaille vraiment sur ce sujet-là, que ça soit sur les métiers plus physique ou plus directement en lien avec les infrastructures, donc des métiers de techniciens, des métiers des gens qui vont monter effectivement aussi au pylône, entretenir les lignes, réparer les lignes, aller dans les postes électriques, faire des contrôles, s'occuper des installations aussi de contrôle commande de ces installations de réseau. Et puis aussi, effectivement, sur des métiers plutôt d'ingénierie, de pilotage de projets qui sont également développés. Donc, sur toute cette palette de métiers, on recherche aussi effectivement à féminiser nos recrutements.
Les gens qui voudraient être embauchés chez RTE, il y a un site spécifique de recherche d'emploi ou de proposition d'offres d'emploi?
Oui, sur RTE Recrute, on a un site avec toutes nos offres. On recrute régulièrement. On recrute aussi beaucoup d'alternants chaque année parce que c'est une bonne façon d'accéder aussi à nos métiers et de se former. Donc n'hésitez pas à les consulter régulièrement. Et puis il y a aussi bien sûr tout ce qui peut exister, encore une fois, chez nos prestataires, nos sous-traitants qui travaillent pour nous sur les projets.
Jérôme Rieu, donc délégué régional Sud-Ouest RTE, s'il y avait un message à passer à nos auditeurs, quelque chose que vous vouliez qu'ils retiennent particulièrement à propos d'RTE, ce serait quoi ?
Moi, je dirais qu'aujourd'hui, on est vraiment dans une bonne situation. Là, encore une fois, on voit encore les crises récentes au Moyen-Orient, avec tous les risques que l'on a là sur nos approvisionnements en énergie fossile. On voit aussi les effets concrets du dérèglement climatique cet été avec ces très fortes chaleurs. Donc, c'est vraiment le moment de réfléchir et chacun, je crois, peut le faire à son niveau, à comment on peut consommer moins d'énergie fossile et donc électrifier nos usages. Une voiture électrique, une pompe à chaleur en lieu et place d'usage fossile, d'usage de pétrole ou de gaz. Aujourd'hui, il y a ce qu'il faut en termes de production d'électricité pour y répondre. Et nous, on est engagés, RTE, dans du développement de réseaux qui vraiment permettent tous ces nouveaux usages.
Jérôme Rieu, donc délégué régional Sud-Ouest RTE, merci d'être revenu sur Radio Galaxy.
Merci à vous.
Musique, interview, tout ce qui se passe au sud de Toulouse est sur Radio Galaxy 98.5 FM.